C'est jusqu'à 14h avec vous, Raphaël Duchemin, et c'est l'heure de découvrir la solution du jour avec Elisabeth Assayag.
Comment aider les proches des malades du cancer en leur donnant une formation, Elisabeth? C'est la solution et elle s'appelle cancer-soutien.fr.
Oui, et c'est tout récent, à peine 3 semaines. Hein. C'est une plateforme entièrement gratuite qui permet aux proches des personnes atteintes du cancer de se sentir moins seuls et d'avoir une approche plus adaptée face à la maladie. Parce que quand on parle d'aidants, on pense souvent aux aidants des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais les aidants du cancer, eh bien ils ont besoin aussi de clés pour comprendre ce qui arrive à leurs proches, sur les traitements notamment. On estime à 382 000 le nombre de nouveaux cas de cancer en France en 2018. Ainsi, dans cancer-soutien.fr, on y trouve des formations en vidéo pour trouver par exemple les bons mots face au traitement, et puis en tant qu'aidant, comment se protéger physiquement et psychiquement. C'est ce que vous allez nous décrire. Bonjour Tristan Bance.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
Merci à vous. Vous êtes le co-créateur de cancer-soutien.fr. Vous avez été aidant dans votre vie et c'est de là qu'est partie votre idée.
Tout à fait. En fait, j'ai été aidant dans ma vie et j'ai été confronté du coup à un vrai manque d'informations dans ce rôle pourtant crucial. Aujourd'hui, on est de plus en plus important dans le protocole de soins, mais on n'est pas forcément informé, préparé à ce rôle. Et donc, on est parti de ce constat avec mon associé. On s'est dit, on va proposer une solution et on va proposer une formation en ligne gratuite pour tous les aidants du cancer. Cette formation, elle est disponible d'ores et déjà sur cancer-soutien.fr. On peut s'y inscrire et suivre à son rythme les différents modules où on peut y trouver, comme vous le disiez, des informations pour se protéger soi, mais également pour comprendre la maladie, détecter des signes d'infection, détecter s'il y a des problèmes et des effets secondaires qui ne devraient pas arriver, pour en alerter les professionnels de soins. Et du coup, être plus à même aussi d'en discuter.
Pouvoir réagir.
Et réagir et en parler aussi.
Quelle est la formation dont on a le plus besoin quand on se retrouve aidant d'un proche atteint d'un cancer? Qu'est-ce qu'on demande le plus?
Alors, aujourd'hui, je pense que ce dont on a le plus besoin, c'est surtout la partie de se protéger. Pour avoir eu beaucoup d'aidants au téléphone, en avoir beaucoup rencontré, on se rend compte qu'ils se s'oublient complètement dans ce rôle. Et ils ont tendance à ne plus aller chez le médecin, plus prendre de temps pour eux. Alors que finalement, prendre du temps pour eux, ça leur permettrait d'avoir des choses à raconter à leurs proches, d'avoir de se sentir mieux.
D'avoir et donc, une bouffée d'oxygène.
Tout à fait. Et parfois aussi, même le patient en a besoin de cette bouffée, d'avoir une soirée tranquillement chez lui, sans avoir cet aidant qui parfois peut avoir tendance à materner ou à s'oublier. Et donc, éviter également aussi de déclencher des maladies chroniques chez les aidants. Parce que 50% des aidants déclenchent des maladies chroniques à la suite de leur position.
Donc 4 à 5 heures de formation, c'est ça?
Tout
sous forme de modules?
On a aujourd'hui une trentaine de modules parce que l'idée, c'est que les aidants n'ont pas forcément beaucoup de temps. Donc là, c'est 30 chapitres où on va pouvoir venir piocher comme on le souhaite les différentes formations. Si on veut comprendre quels sont les problèmes de constipation, que ce soit les problèmes d'infection ou bien qu'est-ce qu'il faut manger, pas manger, et ben on va pouvoir aller piocher quand on a le temps et quand on le souhaite.
Notre coach, Bertil Burel.
Ouais, d'abord, je souhaiterais vous féliciter parce que ça semble, quand vous le dites, ça semble tellement évident que ça aurait dû exister. Et donc, bravo. Et j'ai une petite question. Est-ce qu'on est obligé de prendre les 4-5 heures de formation ou est-ce qu'on peut se dire, aujourd'hui, j'avais un truc très technique sur j'accompagne quelqu'un qui a tel cancer et j'aimerais savoir comment ça se passe.
On l'a bien chapitré, on va dire, pour qu'on vienne piocher quand on en a besoin sur les thématiques qui nous intéressent. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 30 modules, on va continuer de le développer. Et les aidants, pour avoir discuté avec eux, ils n'ont pas forcément le temps de suivre tous les modules, d'être 4 heures devant l'ordinateur. Là, ils vont pouvoir regarder ce qu'il y a et puis dire « Ah bah oui, c'est vrai que la dernière fois, il y a eu cet effet secondaire-là, je ne sais pas forcément quelle est la réaction que je dois avoir ». Et donc là, ils vont pouvoir venir regarder cette formation. C'est des outils en fait qu'on va pouvoir mettre en application très rapidement dans son quotidien. C'est pas des grandes théories, c'est vraiment des outils, des façons de faire qu'on va pouvoir mettre en œuvre dès le lendemain.
C'est sélectionné par cancer ou par traitement, par effet secondaire? Comment c'est organisé?
Par effet secondaire principalement.
Il
y a la préservation de l'aidant, donc il y a toute une partie sur les aidants. Mm-hmm. Et il y a une partie témoignage, association avec lesquelles on a travaillé pour savoir à qui s'orienter, quelles sont les solutions aussi qui sont proposées pour décharger l'aidant dans son rôle.
Vous êtes entouré de professionnels, entendu là, donc les aidants qui sont des professionnels, mais aussi le corps médical?
Le corps médical, on a des médecins et des aides-soignants qui nous ont aidés à construire cette formation et qui ont notamment participé aux vidéos.
En 3 semaines d'existence, vous avez déjà réussi à aider combien d'aidants, justement ?
Alors, aujourd'hui, on a plus de 1000 inscrits sur la plateforme. On va essayer d'échanger un maximum avec eux pour avoir leur premier retour, pour savoir ce qu'ils souhaiteraient ajouter, etc. Et ce que nous, on peut proposer en plus. Et on espère continuer à développer et diffuser cette formation, notamment grâce aux professionnels médicaux. Et on espère également le faire au sein des entreprises grâce à des formations auprès des entreprises, puisque 60% des aidants sont en activité professionnelle.
Ça s'appelle cancer-soutien.fr. Merci Tristan d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.
Il est midi 57.
Europe 1.
Et vous restez avec nous, on va ouvrir dans 10 minutes le dossier du jour. Comment redynamiser le commerce de proximité? On attend vos idées et vous verrez que nos invités, eux, en ont déjà développé. C'est la France qui bouge. À tout de suite.
Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 dans la France qui bouge. Aujourd'hui, c'est de proximité, de commerce que nous allons parler ensemble. Vous êtes évidemment les bienvenus. Si vous voulez réagir ou témoigner, 3921 et Twitter, Céline.
Oui, à tout hashtag Europe 1, c'est très simple.
Vous avez sûrement remarqué que les enseignes de la grande distribution sont en train de changer leur fusil d'épaule et se réapproprier avec de plus petites structures les centres-villes qu'elles avaient en partie désertées pour installer des hyper, notamment dans les zones commerciales. C'est parce que le consommateur est en demande de proximité. Le meilleur exemple, c'est la boulangerie, le pain qu'on achète tous les jours. Mais pas seulement, les commerçants de nos quartiers ont bien compris qu'ils avaient une carte à jouer. Bonjour Olivier Julien.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le fondateur de Véando. Véando, c'est un service qui met en fait directement le client en relation avec son commerçant via une appli vidéo. Je crois que c'est en 2016 que vous avez eu cette idée. Racontez-moi, comment est-ce que ça émerge ?
Alors tout à fait, donc on a joué un petit peu avec les technologies qui permettent d'utiliser la caméra à partir d'un site web. Et on a eu cette idée de mettre en relation un client avec un commerçant directement, juste en un clic. Donc c'est un peu comme un coup de fil, sauf que ça se passe en vidéo et qu'on peut coupler à ça tout le processus de passation de commande, donc constitution du panier, paiement en carte bleue et livraison.
Mais comment est-ce que vous vous dites, vous, il y a une demande sur ce service-là ?
Alors on est parti d'un constat qui est qu'il y a beaucoup de solutions qui sont proposées aux commerçants de proximité pour vendre en ligne, mais qu'elles ne sont pas forcément adaptées. Et l'un des freins principaux qu'on a identifié, c'est la constitution et la maintenance d'un catalogue en ligne. Tout ce qui est prendre des photos de produits, maintenir des listings de prix, maintenir des stocks, etc. Aujourd'hui, un commerce de proximité qui veut vendre en ligne doit mettre en place une boutique en ligne qui va lui coûter assez cher pour la mise en place, mais également ensuite en temps et en argent pour la maintenance. Donc nous, on enlève en fait tous ces freins-là parce qu'en vidéo, à partir du moment où un produit est en rayon, il peut être vendu en ligne, il suffit de montrer les produits avec sa tablette.
Vous avez fait quand même, ça paraît simple hein, quand vous expliquez tout ça, mais vous avez fait 1 an et demi de recherche et développement pour en arriver au concept final, Véando.
Alors c'est ça, donc en fait ce qu'on a cherché c'est vraiment lever tous les freins et reproduire exactement le même modèle que le commerce dans la rue, c'est-à-dire un client qui rentre dans une boutique, il est anonyme, il discute avec le commerçant, il voit les produits, il ressort, ça n'a rien coûté à personne.
Comme
etc.
si j'étais en Skype par exemple, dans
exactement.
La boutique et je vais pouvoir choisir sur l'état du poissonnier, la sole, le bar.
C'est ça, donc le commerçant va utiliser sa tablette avec la caméra frontale pour vous donner du conseil, discuter avec vous, et la caméra arrière pour montrer les produits. Donc il peut vous montrer tout ce qu'il a à l'étal et il n'a pas du tout besoin de gérer son stock ou quoi que ce soit.
Alors ce que je n'ai pas précisé, c'est que tout ça ne se passe pas à Paris. Vous êtes en Bretagne.
Alors en effet, j'ai eu la chance de devoir suivre ma femme à Vannes, en Bretagne, il y a 11 ans. Donc c'est là que j'ai créé ma première société où on fait du conseil, du développement. Donc on est spécialiste d'applications web. On travaille surtout pour des grands groupes qui ne sont pas en Bretagne, qui sont soit à Paris, soit à l'étranger, tout ça. Et donc c'est là aussi qu'on a pris conscience que à chaque fois qu'un client qui est en dehors du territoire nous paye des factures sur le territoire, ça serait bien que cet argent reste sur le territoire. Et l'idée de départ, c'est vraiment de favoriser le commerce de proximité pour que les salaires que je paye à Vannes soient dépensés localement. Et donc au départ, effectivement, tout le déploiement se fait localement. On a 130 commerçants aujourd'hui en Bretagne et on a maintenant d'autres villes en France qui sont intéressées, comme Nevers, comme voilà.
Que dit notre coach, Bertil ?
Moi, j'avais une petite question sur d'abord, quels sont les magasins qui sont le plus concernés ? Et la deuxième, c'est comment vous faites pour la livraison ?
Alors, je vais répondre d'abord à la deuxième. Pour la livraison, nous, on s'appuie sur des partenariats avec des sociétés de livraison locales, qui sont des sociétés à faible bilan carbone.
Donc, il y a pas mal de sociétés. Donc, tout est en circuit court.
Voilà, c'est du circuit court. C'est le dernier kilomètre ou 5-6 kilomètres, mais c'est à vélo, à scooter, etc. On veut vraiment faire du circuit court. Et on s'appuie vraiment sur des sociétés qui existent déjà, qui ont déjà défini les conditions de leur rentabilité, et on ne prend pas de marge sur la livraison. Ça, c'est très important. Voilà, et on cherche effectivement à mettre en relation des commerçants, des clients et des livreurs qui sont motivés pour soutenir le commerce de proximité.
Et sur la première partie de la question de Bertil, effectivement, qui sont ceux qui font le plus appel à vos services ? Est-ce que c'est mon boulanger ?
Alors,
est-ce que c'est mon pâtissier ?
Alors, effectivement, pas mal d'alimentaires, puisqu'on est dans de la livraison dans l'heure, on est sur du produit frais. Il y a l'avantage de la vidéo, c'est qu'on peut aussi faire tout ce qui est préparation du produit en live, tout ce qui est par exemple à la coupe, etc. Ça se prête très bien à la vidéo, alors que ça se prête pas du tout à la vente sur catalogue. Mais on a aussi beaucoup de sociétés de commerce de décoration,
de fleurs,
etc. Voilà, donc c'est assez divers. Et en fait, c'est plutôt nous qui mettons une contrainte sur le fait qu'il faut que ce soit des commerces indépendants. Donc on travaille pas avec la grande distribution. On est vraiment là pour soutenir le commerce indépendant et l'économie des centres-villes.
Ouais, c'est important parce que on parle de désertification des oui. centres-villes. Quel type de villes sont concernées, Elisabeth ?
En général, ce sont les villes de taille moyenne, hein, globalement entre 20 000 et 100 000 habitants. Elles concentrent 23 % de la population française et 26 % de l'emploi. Et ce sont souvent des villes qui sont confrontées à d'importantes difficultés sociales. Quand on parle de désertification de centre-ville, on parle aussi de la vacance commerciale, c'est-à-dire du taux de locaux vides, hein, de ces magasins qui ont existé et qui sont vides désormais. Elle atteint 8,2% dans les centres-bourgs des villes moyennes, contre 6,5% en moyenne au niveau national.
Olivier Julien, c'est un gain de temps, clairement, pour le client. Ça a un coût, je suppose. Qui est-ce qui le supporte ? Le client ? Le commerçant ?
Alors, il y a un coût uniquement si la transaction est faite. Donc, nous, on prend une commission de 10%, c'est le commerçant qui la supporte. Donc, les prix sont les mêmes qu'en boutique pour le client. Encore une fois, la livraison, c'est un petit coût additionnel qui est versé au livreur, mais nous, on ne prend pas de commission là-dessus. Et comme je disais, nous, on supporte tous les coûts, en fait, de publication du commerçant, de communication vidéo, etc. Donc, le but, c'est qu'on ait vraiment le même modèle qu'un client qui rentre en boutique.
Aujourd'hui, donc, lancé à Lorient, à Saint-Malo, à Vannes. Et puis
c'est ça. Donc, on a commencé Rennes et Nantes. Et puis là, on a Nevers qui arrive. Et on cherche à passer justement un peu à l'échelon national et avoir d'autres villes qui
Alors
sont intéressées.
C'était ma question suivante. Qu'est-ce qui vous manque pour passer à l'échelon national ? Vous êtes 6 pour l'instant à travailler dans le réseau de Veando.
C'est ça. Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Veando, ce n'est pas seulement une techno. C'est aussi un projet de fédération des commerçants. Et ça part aussi d'un constat qui est qu'en face, on a des mastodontes. On a la grande distribution, on a des pure players du web comme Amazon, etc., qui sont capables d'investir des milliards en R&D, en communication, etc. Et donc, l'idée de Veando, c'est surtout de fédérer les commerçants pour qu'on puisse, en concédant chacun 10% de commission sur des ventes, mettre en commun ces moyens pour faire de la R&D, donc développer des fonctionnalités qui répondent réellement aux besoins du commerce de proximité et pas transformer un commerçant en e-commerçant, c'est un métier différent, et également pouvoir accentuer sur la communication. Donc voilà, on le voit même sur cette antenne, il y a beaucoup de communication de la grande distribution, etc. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que on mette en commun...
Il y a aussi beaucoup de petits
commerçants. Voilà. Ce qu'on souhaite, c'est mettre en commun des moyens auprès de commerçants qui se fédèrent pour pouvoir financer des campagnes de communication également, pour inciter les clients à commander local, même lorsqu'ils commandent sur Internet.
On reste ensemble ? On continue à parler proximité et commerce aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h18.
Europe 1.
Et on prend la direction de Lyon, où Commerce en Plus propose aux clients un dispositif de fidélité multi-commerce. Vous allez voir, ça marche. À tout de suite.
Redynamiser les centres-villes, c'est possible et on en parle cet après-midi dans La France Bouge avec nos invités qui nous proposent leurs innovations. Pour le faire, si vous souhaitez réagir, nous raconter comment cela se passe chez vous, dans votre centre-ville, écrivez-nous via Twitter ou hashtag Europe 1. Vous pouvez aussi nous appeler au 3921 Raphaël.
C'est en 2018, Céline, que le projet Commerce en Plus est né. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un dispositif de fidélité multi-commerce. Bonjour Guillaume Sagne.
Bonjour Raphaël Duchemin.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui dirigez Commerce en Plus. Tout a commencé vraiment l'année dernière. Hein. Vous revenez chez vous, je crois, à Lyon. Et vous avez l'idée de créer d'abord une conciergerie de territoire. À ce moment-là, vous rencontrez un studio de start-up lyonnais, Waoup. Et ils ont, eux, ce projet Commerce en Plus qu'ils vont vous demander de développer.
Exactement. C'est une belle histoire. Une belle histoire, effectivement. Du côté de la Tour du Pin, dans le Nord-Isère, j'avais l'intention de créer une conciergerie de territoire pour justement accompagner les consommateurs et les commerçants sur la dynamisation du centre-ville. Et puis au même moment, Waouh a eu cette idée géniale qui est de créer Commerce en Plus, qui permet de faire le lien, de créer du lien et de créer de la solidarité sur les territoires. Je rentrerai dans le détail. Et donc ça arrivait au même moment. Je suis arrivé dans le projet en septembre 2018 et depuis, on développe Commerce en Plus avec un système qui est une carte de fidélité multi-commerce, multi-local. Voilà, c'est un,
vous l'avez
c'est
à la main,
exactement.
Cette carte. Donc, qu'est-ce que je trouve sur cette carte partout dans la ville qui joue le jeu, par exemple un quartier de Lyon ou d'autres villes, hein, parce que vous l'avez développé, à Oullins ou à Neuville-sur-Saône, par exemple, les commerçants disent « Ok, je travaille avec vous, avec Commerce en Plus. »
Tout à fait.
Et du coup, je peux cumuler des points.
Alors, mieux que ça. Là, je vous ai amené l'exemplaire de M. Laplagne en Savoie.
Qui vient de démarrer
le 17 octobre. Et donc là, l'idée, c'est qu'on a 15 commerçants qui sont adhérents au dispositif. Et l'objectif, c'est quand vous consommez localement chez les commerces du centre-ville, vous gagnez non pas des points, mais des euros. Puisqu'on est parti du principe qu'aujourd'hui, on avait une problématique, c'était le pouvoir d'achat des Français. Donc, on a appelé ça le cagnotage. Donc, quand je vais consommer chez mon commerçant, je cagnote des euros sur un portefeuille, sur un wallet digital, on appellera ça aujourd'hui. Et ces euros, je vais pouvoir les réutiliser chez les commerçants adhérents au dispositif.
Ça veut dire que si j'accumule des points chez mon boucher, chez mon poissonnier, chez mon boulanger, je peux très bien aller dépenser l'argent ailleurs, chez le fleuriste par exemple, s'il est adhérent.
Oui, tout à fait. Par exemple, l'objectif, on est vraiment sur une démarche collective, c'est vraiment ça l'intérêt. Et puis en plus, on essaie de faire de la complémentarité sur un territoire, puisqu'il y a les commerçants indépendants, il y a le digital, et il y a également la grande distribution. Alors nous, l'objectif, c'est d'essayer de créer du lien entre tous ces acteurs, parce qu'on sait qu'un centre-ville, ça vit avec ses commerçants dans le centre, mais ça vit aussi parce qu'on a une grande distribution qui attire et qui est attractive. Donc l'objectif, quand on allait à M-Laplagne, on allait voir le supermarché qui est en périphérie du centre-ville, et on leur a dit, si vous jouez le jeu, on va vous permettre de participer au dispositif et de faire gagner du pouvoir d'achat à vos clients. Sauf que ce pouvoir d'achat, au lieu qu'il soit dépensable dans la grande distribution, il va être dépensable uniquement chez les commerces du centre-ville.
Donc c'est gagnant-gagnant pour le centre-ville et pour la grande distribution.
Exactement. Et pour les consommateurs qui gagnent du coup un pouvoir d'achat en consommant du commerce de proximité, en continuant à faire leurs courses le samedi matin dans la grande distribution. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une démarche vertueuse et de miser sur l'économie locale, qui est vraiment l'objectif de Commerce en Plus.
Bertil ?
Je trouve que l'idée est très très bonne. Je me demande comment est-ce qu'on trouve ces cartes et comment est-ce que le détenteur de cette carte sait quels sont les commerçants qui participent ou pas.
Alors, on est toujours dans cet objectif de rediriger les flux vers les commerces de proximité. Donc, la carte est à retirer chez les commerçants adhérents du dispositif. Et puis également, donc, il y a toute une plateforme digitale derrière qui permet d'avoir la liste des adhérents au Pass Commerce. Donc là, pour M. Laplagne, vous avez un site qui est dédié aux commerçants du territoire et vous retrouvez toute la liste des commerçants qui sont adhérents au dispositif.
Elisabeth ? Ce sont seulement des commerces de bouche ou tout type de commerçants ?
Tout type de commerçants. Sur M. Laplagne, on a la fromagerie, on a des restaurants, on a un libraire, on a le magazine local qui a des petites annonces. Donc l'objectif, c'est vraiment de créer du lien entre tous les acteurs économiques du territoire, de travailler avec les élus, évidemment, de travailler avec les unions commerciales, puisqu'on s'appuie sur l'union commerciale pour pouvoir déployer ça sur les territoires. Et puis quand on a la grande distribution, finalement, la grande distribution génère un chiffre d'affaires supplémentaire pour les commerçants du territoire.
Justement, vous parliez du média local. Je crois que vous avez trouvé, Elisabeth, un média qui ne propose que des publicités locales.
Oui, ça s'appelle We Are Local, qui a fait le choix de se tourner vers le commerce de proximité. L'idée, c'est de proposer sur les réseaux sociaux, que nous connaissons tous, une vidéo promotionnelle des commerçants locaux qui joue sur les codes, vous savez, des petits formats, des petites vidéos que l'on voit régulièrement sur les réseaux. Et puis l'objectif, c'est d'attirer du flux dans les magasins de proximité. C'est disponible à partir partir de 250 € par mois. Et le service comprend le réinvestissement de 40% de l'abonnement en achat de publicité sur les plateformes sociales.
Dernière question. Vous êtes allé voir au départ combien de commerçants pour arriver à fédérer comme ça? Ça a dû être un travail très long.
Alors, on a fait un gros travail de terrain. Aller à la rencontre des commerçants. On a rencontré plus de 700 commerçants sur plusieurs territoires. L'objectif était de comprendre finalement ce dont avait besoin un commerçant. Et au bout du compte, le commerçant nous a dit, dans la grande majorité, j'ai besoin d'avoir des clients dans mon magasin. Et pour avoir des clients dans mon magasin, il faut qu'on leur donne envie de retourner chez les commerçants de proximité. Et on est parti d'une chose assez basique et assez simple, c'est les euros à gagner sur une carte.
On reste ensemble et on continue à parler commerce de proximité aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1.
Et on va partir pour Roubaix découvrir Hyper, une plateforme de livraison collaborative pour les commerces de proximité. À tout de suite.
On parle des innovations pour dynamiser nos centres-villes dans la France Bouge. Pour agir, nous parler des idées qui se développent près de chez vous, dans votre centre-ville. Écrivez-nous via Twitter, hashtag Europe 1, ou alors appelez-nous au 3921, c'est 50 centimes la minute, Raphaël.
Quand on va faire ses courses au supermarché, qu'on pose son caddie, qu'on arrive à la caisse ou qu'on commande en ligne, hein, le grand changement en 20 ans, évidemment, c'est la livraison à domicile, plus de paquets à porter, du temps gagné aussi. Et si c'était possible, avec les commerces de proximité? Bonjour Jacques Staquet.
Bonjour Raphaël Duchemin.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président d'Hyper, je précise, ça s'écrit Y-P-E-R. Et vous avez créé une plateforme collaborative de livraison pour eux, justement, pour ces commerçants de proximité. Vous êtes à Roubaix. Et si vous avez eu cette idée, c'est que vous avez travaillé pendant 17 ans pour Auchan et que vous avez vu, justement, comment l'arrivée de ces nouveaux services avait révolutionné les choses, l'acte d'achat, en fait.
Absolument, c'est vrai que la grande distribution, on en a déjà beaucoup parlé, elle a vécu une révolution qu'elle n'a pas bien maîtrisée au début et sur laquelle elle a eu du temps à comprendre ce qui se passait. On a entendu des choses comme « c'est pas le même client », bon voilà, on s'est rassuré comme on a pu. Il y a énormément de moyens qui ont été mis en place par ces acteurs, effectivement, des capacités à les mobiliser. Et puis à un moment, c'est imposé à moi et à mon associé et maintenant à l'équipe. Le fait de se dire, mais le commerce n'est pas que grande distribution ou GAFA et e-commerçant. Il y a aussi un tissu assez franco-français probablement et assez spécifique, un tissu de petit commerce. Et ceux-là se prennent également, cette révolution de l'achat en ligne, du tout livré chez soi, du toujours plus vite, avec en plus une sorte de mythe qui est que la livraison ne coûte rien. Et donc on s'est dit, tiens, ça c'est une bataille qui a du sens et qui vaut le coup d'être joué, et on a effectivement développé une plateforme et au service de la grande distribution, donc des courses alimentaires, en complément des drives, qui a été une des dernières révolutions dans le monde de l'alimentaire ces dernières années, qui permet donc de se faire livrer des courses, et au niveau des petits commerçants, au départ des boutiques.
Alors, ça s'est passé en deux étapes, hein, oui. Si j'ai bien compris. En 2016, premier projet, livrer les courses en passant au drive à la place d'autres personnes, c'est-à-dire faire le blablacar des courses, hein, finalement.
De course.
Et puis, très vite, vous repensez le concept et vous décidez d'y associer effectivement les petits commerces.
Oui, ça s'est vraiment fait dans cet ordre-là. Je pense qu'on a tous un terreau personnel. Moi, le mien, il était de la grande distribution, donc je suis parti avec cette première idée.
Donc, vous n'avez pas voulu les exclure.
C'est vraiment une question de culture personnelle. Voilà. Et puis ensuite, on s'est dit, mais finalement, cette capacité à mobiliser des particuliers qui sont dans la ville, qui sont prêts à rendre un service contre un défraiement, hein, c'est aujourd'hui pas un service qui est gratuit très clairement, mais contre un défraiement, utiliser des particuliers qui sont prêts pour faire des livraisons de proximité de quelques kilomètres. Finalement, ce besoin-là, dans le cadre d'échanges qu'on a eu aussi avec des commerçants locaux, des commerçants de proximité, on a assez vite perçu le fait que ça pouvait répondre à une attente, qui est de dire, mais mon client vient ou pas dans ma boutique, mais il aime mes produits, et donc quand il peut pas venir, comment je fais pour lui vendre quand même ?
Ah bah, y a des shoppers, c'est ça ? Les shoppers, c'est comme ça que vous les appelez, qui passent à sa place pour récupérer les courses. 100 000 shoppers inscrits ?
Alors c'est le chiffre des inscrits sur notre plateforme, avec deux plateformes qui se sont mutualisées récemment. Hein,
puisque vous avez racheté U2U, qui était l'enseigne parisienne.
C'est ça. Nous, on avait plutôt, en bon roubaisien ou ch'ti, contourné l'obstacle parisien. U2U est né à Paris. Et donc là, pour le coup, c'est le ch'ti qui s'est rapproché du parisien. Et donc, on a aujourd'hui effectivement une couverture nationale qui est assez sympathique, puisqu'on est dans plus de 300 villes en France. Et on peut effectivement s'appuyer sur des communautés larges de gens qui sont inscrits en disant « ce deal de faire des livraisons de proximité occasionnelle, ok, ça m'intéresse ».
Bertil, notre coach.
Qui sont ces shoppers en fait? Qui se décident à aller prendre les cours?
Alors, c'est majoritairement des hommes, mais pas que. La dernière fois qu'on avait un peu analysé, on est sur une quarantaine de pourcents de femmes. Les hommes sont plus actifs sur la partie livraison. Ils font plus de livraison quand ils y arrivent. Peut-être qu'ils sont plus musclés sur des courses. On fait aussi des fleurs, et ça, pour le coup, ça peut aller et pour des femmes et pour des hommes. Et c'est d'ailleurs très agréable à livrer. Les fleurs. Et donc, parce qu'en général, la personne qui ouvre ne s'y attend pas. Et donc, il y a toujours un moment
où un inconnu vous offre des fleurs.
Donc, c'est assez rigolo à vivre. Et on a beaucoup de feedback de shoppers par rapport à ça. Et ensuite, c'est des gens qui vont avoir ou un job, mais posté, temps partiel, ou voilà, qui ont du temps disponible à côté.
Et qui peuvent des gens arrondir la fin de mois.
Et qui arrondissent leur fin de mois. Il y a clairement un sujet là-dessus. Ou bien des gens qui sont au RSA ou un peu en recherche de job. Et qui n'en trouvent pas. On a aujourd'hui des populations qui ont un accès plus compliqué au job et ou au boulot plus stable entre guillemets et qui vont réussir à compléter, à arrondir. Juste une petite histoire, une anecdote. On a une boutique qui s'est retrouvée à embaucher quelqu'un qui faisait shopper chez nous de façon un peu récurrente et qui a été embauché en tant que livreur full time à plein temps,
dans la
boutique. Et j'avoue que ce truc-là, moi, me plaît plutôt. Alors, on a perdu un peu de chiffre d'affaires avec la boutique et pour autant, on se dit. Là, il y a une histoire qui a du sens.
Bah oui, parce que vous avez créé un emploi. Vous avez trouvé, Elisabeth, d'autres solutions, je crois, pour faire revenir les personnes dans les commerces de proximité.
Oui, ça me bouge dans pas mal de régions. Par exemple, vous avez les habitués. Je ne sais pas si vous connaissez les habitués. C'est un peu le principe de l'ardoise. Vous savez, quand on avait son propre compte chez le boulanger à une certaine époque, eh bien là, c'est digital et ça permet de fidéliser la clientèle. Le principe, eh bien, c'est que c'est une application mobile qui permet à chaque client d'avoir un compte personnel chez son boulanger, chez son pâtissier, son boucher, son fromager, un compte que vous pouvez recharger en avance et consulter à tout moment.
Et puis on parlait de la grande distribution, il y a aussi épicerie.
Épicerie, tout à fait. Épicerie, c'est un service de livraison qui met en avant via une appli les petits commerçants, les petits artisans qui sont pas très loin de chez vous, hein, des traiteurs, des poissonniers, des bouchers, des boulangers. Vous les payez au même prix que si vous y alliez dans leur magasin. Vous n'avez que les frais de livraison à payer. C'est livré chez vous. Les commerçants, vous les voyez. Hein, peut-être il y a même une photo sur le site qui correspond à chaque commerçant. Donc c'est plutôt sympathique, c'est ludique. Et en plus de ça, c'est pratique et ça participe au commerce de proximité.
On reste ensemble et on attend vos questions sur Europe 1. Il est 13h37.
Europe 1.
Venez témoigner, venez nous dire comment vous faites vos courses, si vous préférez les commerces de proximité. On vous attend, 3921 et Twitter, hashtag Europe 1, c'est la France qui bouge, à tout de suite. Comment redynamiser les commerces de proximité? C'est le dossier du jour dans La France bouge et vous nous en parlez, Raphaël, avec vos invités. Notre coach aujourd'hui, Bertille Burel, fondatrice de Wonderbox. À mes côtés, toujours Elisabeth Assayag. Et nos invités, Olivier Julien, fondateur et dirigeant de Véando, Guillaume Sagne, directeur général de Commerce en Plus, et Jacques Staquet, président et cofondateur d'Hyper. Nous sommes en région, hein, nous sommes à Roubaix, nous sommes à Lyon, nous sommes aussi en Bretagne, à Vannes notamment, mais pas seulement. On a des questions, Céline, on a des témoignages?
Oui, sur Twitter, hashtag Europe 1. On a notamment Corentin qui nous dit « Super sujet, tellement important pour retisser du lien social. Je vous invite à jeter un œil à Bouge ton coq qui finance les initiatives d'intérêt général dans la ruralité. Le commerce est un sujet prioritaire.
Ouais, » Et c'est justement ce que vous avez fait.
C'est vachement bien, hein, Bouge ton coq, parce que c'est un guichet hein, qui regroupe les entreprises, les collectivités, les citoyens pour changer la vie à la campagne. Vous pouvez donner 2 euros par mois et en donnant 2 euros par mois, vous devenez membre et vous financez des porteurs de projets en campagne.
Vos initiatives, elles s'adressent à des villes de taille moyenne ou elles peuvent aller en proximité dans le rural, dans le tissu local, micro-local, j'ai envie de dire.
Pour Hyper, on a été aspiré par le local et le micro-local, c'est-à-dire qu'on a... Alors ça s'est fait en deux temps, il y a eu un acteur de la grande distri, mais un petit, qui nous a testé sur la métropole lilloise et qui au bout d'un mois nous a dit « je le veux partout ». Et nous, on a regardé un peu comme ça en se disant au début « mais comment on fait ?» Et donc on a réussi à les développer. Alors il y a une ville qu'on adore chez Hyper parce qu'on fait partie des rares à savoir la prononcer du premier coup, qui est Souffelweyersheim.
Oui, je vous confirme.
Voilà, à vos souhaits. Bonjour à cela. Mais et donc on
si
a déployé.
Écoute, on les embrasse.
Voilà, on a déployé en Alsace notamment et dans l'est de la France dans des villes de taille vraiment pas petite. Faut pas être péjoratif, mais petite. Petites villes. Donc c'est du 10 000 habitants, moins de 10 000 habitants. Et en fait, cette livraison collaborative, comme elle s'appuie sur les gens qui habitent sur place, elle est déployable dans des villes de toute taille entre guillemets. Et on bute encore aujourd'hui un peu sur la vraie ruralité, pardon. Mais c'est un sujet, moi, qui m'interpelle, et on est interrogé régulièrement par des commerçants qui disent « Vous pourriez être dans telle ville ?» Alors d'abord, on regarde sur Google Maps pour savoir où c'est, et puis on se dit « Pour l'instant, c'est un peu compliqué. » Mais c'est un vrai sujet, effectivement.
Je rebondis sur la question de la grande distribution, parce que je sais que ça fait débat, y compris entre vous. Vous dites, aujourd'hui, la livraison pour les commerces de proximité, c'est 60% de votre chiffre d'affaires. Ça veut dire que c'est pas, effectivement, la grande distribution qui vous alimente.
Alors, c'est une belle histoire chez Hyper, parce que finalement, ceux qui ont fait des actes de foi, qui ont cru à ce qu'on racontait, ça a plutôt été les petits commerçants, les commerçants de proximité. Et il y a une forme de réveil un peu de ce qu'on appelle les retailers, la grande distri, qui se dit, mais finalement, ça marche. Et là, il y a un intérêt en ce moment. Mais avant, ça a surtout été des gens avec une décision plus courte, une capacité à dire, chiche, j'essaye. Et du coup, c'est plutôt du commerce de proximité qui nous a aidé à grandir.
Oui, ça veut dire qu'on redistribue un petit peu les cartes aujourd'hui, Olivier Julien, entre commerce de proximité, grande distribution.
Je crois qu'il y a une petite inversion de tendance, mais il faut quand même voir que le drive s'est énormément développé. Il y a plus de 5000 drives en France. C'est vraiment rentré dans les habitudes des clients, puisqu'on a un quart des foyers qui utilisent le drive une fois par mois. Enfin, voilà. Donc, ce qu'on disait il y a quelques années, le drive, ça ne marchera pas, etc. Si, attention, ça marche quand même. Donc, il y a quand même une menace qui est là. Et par contre, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, ce qu'on appelle le click and collect, c'est-à-dire le fait de commander sur Internet et d'aller chercher son produit, ça fait partie des habitudes autant que de se faire livrer chez soi. Et nous, avec Véando, justement, on propose les deux. On propose effectivement l'acte de vente en ligne, le fait que le client peut venir chercher son produit en magasin à l'heure qui lui convient, et on propose également la livraison.
Le rapport avec la grande distribution, pour vous, justement, Guillaume Sagne, quel est-il aujourd'hui ?
Complémentaire. Nous, l'objectif, c'est vraiment de tisser des liens entre les acteurs économiques du territoire, dans une démarche d'économie locale. Donc la grande distribution doit faire partie des acteurs qui permettent de redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs, et avec aussi, il faut se le dire, avec des intérêts pour la grande distribution, de dire on joue le jeu du territoire, on accompagne les élus aussi sur nos territoires pour dynamiser notre centre-ville et les commerces de proximité.
Céline ?
Oui, alors on a toujours des réactions sur Twitter, celle de Véronique qui nous dit un bel exemple près de Toulouse, à la fois cantine et magasin d'alimentation, Minjat recrée dans son commerce l'esprit d'une vraie place de marché avec des animations, des ateliers pour enfants, des cours de cuisine, des rencontres avec les producteurs. Et puis on a une question de Marc.
Oui.
Marc, hashtag Europe 1, qui nous dit, en vous écoutant présenter vos solutions, on pense tout de suite à un David contre Goliath, j'imagine grande distribution contre petit commerce. N'y a-t-il pas un risque d'arriver alors à la grenouille qui voulait être plus grosse que le bœuf?
Ah, bon, on a en partie répondu, mais qui a envie de reprendre la parole, Olivier?
Je crois qu'effectivement, le problème, c'est le petit commerçant individuellement n'a pas les moyens d'être compétitif
et
de pouvoir. Voilà. Et donc, il faut vraiment se fédérer. Et donc, nous, c'est ce qu'on propose, c'est le fait de, avec des petits ruisseaux, faire de grandes rivières et proposer des solutions qui sont vraiment adaptées au commerce de proximité.
Elisabeth, là, je parlais d'épicerie tout à l'heure et vous avez rebondi hors antenne. Épicerie, par exemple, ils ont besoin d'un gros distributeur, d'un géant là, comme Monoprix, qui a mis de l'argent depuis 2017, justement pour pouvoir aider et faire en sorte que le commerce de proximité se développe. Donc, on a peut-être besoin de cette grande distribution pour pouvoir évoluer tous ensemble.
La complémentarité dont vous parliez tout à l'heure.
C'est ça. Et puis, le besoin aussi pour les commerçants indépendants de se fédérer. Donc, on s'appuie énormément sur les unions commerciales. Et on sait qu'on est sur des démarches collectives. L'objectif, c'est vraiment qu'ils se prennent en main et qu'on puisse les accompagner dans une démarche collective sur l'ensemble des territoires français.
Bertil ?
Je trouve ça intéressant de voir à quel point vous êtes tous complémentaires les uns avec les autres. Et en fait, c'est marrant de penser que finalement, vous êtes en train de créer une marketplace locale comme sur Internet. On applique localement un concept d'Internet où on va avoir une carte de fidélité, un réseau de distribution, du conseil, des vidéos, etc.
C'est vrai. Alors, nous, on parle de plateforme de services locales. Et c'est vrai que, au-delà de la carte de fidélité, on peut agréger plein de services autour du commerçant. C'est la fidélité, ça va être les aider aussi pour faire venir les gens dans les centres-villes. Le sujet du stationnement est quelque chose de d'actualité.
Une autre émission, hein, Raphaël.
Une autre émission.
Il y a des chances. donc, voilà, on sait que pour accompagner les commerçants, il va falloir leur apporter toute une multitude de services dans une démarche collective.
Et c'est ce que vous faites tous les trois de très belle manière. Merci d'être venus nous en parler et les partager avec nous sur Europe 1.
Il est 13h47.
Europe 1.
Et on reste ensemble. Ne bougez pas dans un instant. On va s'intéresser à une entreprise qui est née dans le Calvados il y a 25 ans. H2O Parapluie.
et l'entreprise qui va bien. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, eh bien, c'est H2O Parapluie. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Ah, si je me mets à chanter, il va sûrement pleuvoir. Bonjour Yves-Charles Boccassini.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui l'a dirigé depuis 3 ans, c'est ça ?
Non, 2 ans à peu
près. 2 ans. Entreprise familiale, en fait, que vous avez reprise, mais qui a été créée en 1994 dans le Calvados. Pourquoi une fabrique de parapluies en Normandie où il ne pleut jamais ? Je ne comprends pas.
Faudrait demander à mes prédécesseurs. Non, ouais. Il pleut souvent, apparemment.
Alors, l'histoire de départ, c'est celle de la famille Collard, qui ont une boutique à Paris, hein, une boutique de réparation de parapluies, et qui décident de partir s'installer en Normandie, parce que c'est là que sont leurs racines, tout simplement. Mmh. C'est comme ça que naît H2O.
Tout à fait, oui.
Racontez-moi, comment est-ce que vous arrivez dans cette aventure H2O ? Qu'est-ce qui vous plaît ?
Quand je suis arrivé, j'étais séduit par les modèles, tout simplement. Et en fait, c'est marrant, j'avais pas envie forcément de la racheter. On m'a un petit peu forcé à aller la voir, parce que je travaillais avec un intermédiaire qui m'a dit, je cherchais une entreprise à racheter, et puis il m'a dit, bah tiens, je te vois bien dedans. Et puis moi, je voulais quand même une entreprise qui fasse à peu près 2 millions d'euros et 10-15 salariés. Puis là, il me dit, bah, l'entreprise fait 250 000 euros de chiffre d'affaires et il y aura une personne, la chef d'atelier, et toi. Je fais, oui, enfin,
Vous n'étiez pas du tout dans la bonne description.
Non, non, tout à fait. Non. Par contre, il y avait 2 choses que j'avais demandées. Je voulais préserver un savoir-faire. Ça, c'était important pour moi. Et un produit exportable. Et donc, en fait, il me dit, mais on a déjà ces deux-là. Et puis, il me dit, je te vois bien dedans. Tu as un profil de développeur et ça pourrait marcher.
Oui, parce que vous êtes un habitué des reprises. Hein. Vous avez repris l'entreprise de votre père. Vous aviez aussi racheté, je crois, Service Plus.
Oui, alors ça, c'était aussi avec mon père.
Oui, dans une autre vie. Mais là, vous changez d'univers, le parapluie. Donc, c'est quelque chose que vous découvrez totalement.
Ah, oui, tout à fait. Oui.
Il a fallu vous former.
Oui, alors bah, c'est Claude et Martine qui m'ont formé.
Claude et Martine Collard.
Oui, Collard, bien entendu. Et qui m'ont appris un peu les ficelles du métier, mais je continue toujours à apprendre. J'ai aussi ma chef d'atelier qui est toujours là pour, dès que j'ai des questions, elle m'aiguille.
Vous faites encore les parapluies, ceux que nous avons ici hein, dans le studio d'Europe 1, les parapluies à la main. Comment
j'ai
ça
pas
se
compris.
Passe
Vous ah,
faites
oui, oui,
vous fabriquez
à
encore
oui,
à
oui,
la
bien
main
entendu. Tout est fait à la main, oui. Tout est fait à la main et donc bah, c'est surtout ça qui est le plus intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, 95% du marché international du parapluie, c'est chinois. Et là, en fait, nous, on est quelques petites entreprises en France à préserver un savoir-faire.
Vos tissus sont pour la plupart made in France ou made in Italy,
oui,
pour les imprimer. Et vous avez à votre actif des spécificités, le passe-vent par exemple, ou le bâton de marche qui fait parapluie, la canne à pluie.
Oui, tout à fait. Et le passe-vent, c'est celui que vous
avez.
C'est
celui que je tiens.
Voilà. Et donc ça, c'est un produit qui a été créé il y a 25 ans, et quand Claude et Martine ont créé l'entreprise. Et donc il a la particularité qu'il ne se retourne pas, parce que quand il y a trop de vent, en fait, l'air sort par les évents. Et alors, l'histoire...
C'est pour ça qu'il est légèrement recourbé.
Oui, oui, et bien entendu. Et en plus, là, comment dire, le galbe du parapluie fait sa solidité. Mais l'histoire, c'est Claude qui l'a inventé et il a été copié. Et donc là, le dernier coup, j'étais à une manifestation et j'ai vu que des passe-vents, mais aucun de chez nous. Donc en fait, c'est un peu dommage. Mais bon, après, c'est pas grave. Vous avez l'authentique, en tout cas.
Que dit notre coach, Bertil Burel ?
Je trouve ça vraiment passionnant de garder des savoir-faire comme ça en France. Et je me demandais, votre clientèle, ce sont des collectionneurs ou ce sont des utilisateurs de parapluies qui vont vous découvrir ? Et surtout, dans quelle zone géographique aussi ?
Alors, on a la chance d'avoir une notoriété déjà qui est très locale. Donc, quand vous arrivez dans le Calvados, vous dites H2O, à chaque fois, tout le monde dit « Ah ben moi, j'en ai un » et c'est très costaud. La France entière, en fait. On a un site internet, on vend dans la France entière. On vend énormément en Belgique. Alors, je ne sais pas pourquoi, apparemment il pleut beaucoup aussi. Mais voilà.
Est-ce que vous exportez au Japon où en oui. fait il y a une vraie culture oui. du parapluie alors, de luxe alors,
je ne vais pas dire que j'exporte, en fait on commence à exporter. À partir de janvier, on va avoir un showroom au Japon.
Ce qui est important, et on ne l'a peut-être pas suffisamment insisté, c'est que ces parapluies, ils peuvent durer une vie, vous les réparez.
Tout à fait, oui. Alors, en fait, Claude et Martine étaient des artisans qui avaient l'amour de leur métier. Et en fait, ils avaient, moi ce que j'appelle, ils étaient en surqualité. C'est-à-dire qu'en fait, vous achetez un parapluie chez eux et ils vous le réparaient autant de fois qu'il tombait, enfin, qu'il cassait en fait. Et en fait, moi, quand je suis arrivé, je me suis dit, c'est quand même dommage de ne pas l'exploiter. Et donc, en fait, avec la personne avec qui je fais la communication de l'entreprise, j'ai dit, pourquoi on ne les garantirait pas à vie? Et donc, en fait, on est les seuls à garantir nos produits à vie. Donc, en fait, on est sûr de notre solidité.
Merci beaucoup d'être venu nous raconter cette belle histoire d'H2O Parapluie. C'est l'entreprise qui va bien. Merci à Bertille Burel qui était notre coach aujourd'hui, fondatrice de Wonderbox. On se donne rendez-vous demain.
À demain,
Céline et Elisabeth. Et puis n'oubliez pas, vendredi, on vous attend. Nous serons en direct du salon du Made in France à Paris entre midi et 14h.
C'était Raphaël Duchemin sur Europe 1. Dans un instant, Christophe Ondelat.